Je vais donc un petit peu vous exposer le point de vue qui a été le nôtre, le point de vue de Charles Hautement, qui est délégué général de l'association Le Labo des Histoires, qui est labellisé La France s'engage, le point de vue de Laurent Checola, journaliste freelance, anciennement journaliste au Monde, mais qui aussi collabore avec Arte et Nova Prod. Et donc je vais commencer pour ma part par vous exposer quelques idées entre utopie et dystopie. Et en fait, dans l'historique que Jean-Daniel a brièvement rappelé, ce qui s'est passé, c'est que bien évidemment, le séminaire est né du débat dans le huis clos de la FMSH entre deux professeurs titulaires de deux chaires différentes. Et je suis arrivée un petit peu tel un trublion, comme la troisième, non pas le troisième homme, mais la troisième personne, pour faire peut-être bouger un petit peu les lignes, en tout cas introduire un principe qui me semble, enfin deux principes au moins, qui me semblent fondamentaux. Le premier principe, c'est le principe de l'intergénérationnel. C'est vraiment un parti pris extrêmement important dès lors qu'on parle de ce type de sujet, parce que la fracture générationnelle peut véritablement biaiser le débat. Et donc il me semble important justement de réunir différentes générations. Je suis très contente de voir que ces générations ont répondu présentes à l'appel que nous avons lancé. Et deuxième parti pris, le parti pris de l'interactivité. Bien évidemment, si vous êtes venu aujourd'hui, c'est parce que vous avez beaucoup de questions et vous avez certes envie d'être nourri d'informations, de données, mais vous voulez aussi vous exprimer. C'est pour ça que je ferai une présentation, dans l'espoir de ne pas me contredire dans mes propres termes, très courte, justement, pour vous parler d'interactivité, et aussi peut-être dire quelques mots sur le lieu dans lequel nous nous trouvons, le centre de recherche interdisciplinaire. Je pense que la migration du lieu premier qui avait été la maison Sugère à ce lieu ici, est assez symbolique. Le centre de recherche interdisciplinaire donc est construit autour de ce que François Taddeï, son directeur et son cofondateur, appelle les 4 C. Il y a même un 5e C, si vous le trouvez. Premier C, créer, coopérer, communiquer et critique constructive. Et effectivement, je pense que c'est important aussi de garder ces 4/5 C à l'esprit dès lors que l'on aborde une thématique comme celle d'aujourd'hui. Merci. Et voilà. Et donc, comme vous avez vu qu'il y a une tension entre utopie et dystopie, mais que à l'issue des deux exposés, vous avez vu qu'il y avait une sorte de Jean-Danielisation, si je puis dire, de la réflexion et, d'une certaine manière, un tropisme vers la dystopie, je me fais finalement l'avocat de l'utopie. Pour moi personnellement, le mot clé de l'intitulé, s'il ne fallait en garder qu'un seul, c'est le mot outil, c'est la préposition entre. C'est précisément entre utopie et dystopie. C'est précisément ce mot-là qu'il faudrait vraiment travailler d'un point de vue sémantique par rapport au levier d'action qu'il nous donne. C'est notre véritable marge de manœuvre et c'est là peut-être où réside notre liberté. Mais donc, pour rééquilibrer un petit peu le débat, je vais me faire délibérément et naïvement utopiste pendant les 10 prochaines minutes. Et donc, premier exemple d'une utilisation extrêmement utopique des nouvelles technologies en faveur d'un accès équitable à l'éducation. Et ça, c'est effectivement un thème qui est cher au CRI, puisque le CRI s'occupe d'innovation pédagogique. L'exemple que vous connaissez peut-être de Sugata Mitra, qui est un ingénieur indien qui a eu une idée fabuleuse, à savoir, il a décidé de creuser un trou dans un mur et d'y mettre un ordinateur pour effectivement faire une expérience. Il travaillait dans un bureau extrêmement dans une zone favorisée qui donnait bien évidemment sur un bidonville. Donc là, effectivement, les inégalités sociales s'entrechoquent dans l'urbanisme indien de la ville où il était. Je me souviens plus exactement, c'est New Delhi. Et donc, il a mis une sorte de kiosque avec une grande partie des connaissances qui sont disponibles sur le web, avec comme mission donnée aux enfants de ce bidonville, qui ne savaient pas parler anglais, qui ne savaient pas utiliser l'ordinateur a priori. Il leur a donné la mission de se former en biotechnologie. Donc un sujet sur lequel nous-mêmes nous serions un petit peu fragiles. Et il les allait juste laisser comme ça. Et il est revenu quelques temps plus tard pour leur demander ce qu'ils avaient pu tirer de cette proximité avec un outil donc technologique qui est finalement une source et un vivier incommensurable de connaissances. Et ils ont dit, bon, à part le fait qu'une erreur de réplication de l'ADN cause des maladies génétiques, on n'a rien compris. Ah d'accord, donc il a commencé à multiplier ce type d'expérience pour montrer effectivement la richesse que pouvait apporter un accès équitable à la technologie, à ce grand vivier de connaissances pour effectivement peut-être répondre au problème de la pénurie des professeurs en Inde. Voilà le premier arrêt sur image, utopiste. Deuxième arrêt, quelque chose aussi qui est en rapport avec l'histoire proche du CRI. Le CRI a organisé pour la Nuit Blanche un parcours artistique sur l'empathie. Et une partie des installations interactives qui étaient présentées pour ce parcours utilisait la réalité virtuelle. Et donc, je voulais vous parler d'une autre forme de technologie, une nouvelle technologie disruptive, la réalité virtuelle. Et en l'occurrence, là, il s'agit d'un film filmé à 360. Donc, vous pouvez visionner avec... là, en l'occurrence, ça a été plus calibré pour la visionneuse produite par Google, donc le Google Cardboard. Donc, c'est extrêmement frugal comme masque de réalité virtuelle. Et donc là, c'est un court-métrage qui a été filmé, entre autres, par Chris Milk, qui est très actif en la matière et qui utilise justement ce vecteur, le vecteur de la réalité virtuelle, pour ouvrir les portes de la perception, pour donner... en l'occurrence là, aux dirigeants, aux hauts cadres dirigeants du Forum économique de Davos ou des Nations Unies, une vision à 360 degrés de ce que c'est que le quotidien de qui, en l'occurrence de personnes que ces dirigeants n'auraient jamais l'occasion de rencontrer, des adolescentes syriennes dans un camp de réfugiés en Jordanie. Donc là, vous voyez que cette nouvelle technologie permet, justement, à 360, permet, si possible, d'ouvrir un autre regard sur le monde. Et je voulais aussi, bien évidemment, vous parler, en termes de réalité virtuelle et de développement de l'empathie, des travaux de recherche-création qui sont faits par un collectif d'artistes qu'on a eu le plaisir d'accueillir pour la Nuit Blanche, qui s'appelle le Be Another Lab. Et eux, ils ont vraiment mis au point ce qu'ils appellent une machine pour être un autre, de façon assez poétique et assez ambitieuse. En fait, c'est un dispositif qui est composé de deux casques Oculus Rift. Donc, vous avez deux utilisateurs qui échangent de corps et qui voient le monde à travers le point de vue de l'autre par le truchement de cette nouvelle technologie. Donc fondamentalement, ce qui se passe, c'est que sur ces casques sont montées des caméras et donc il y a un court-circuit des flux vidéo. Ce que l'utilisateur A voit à travers son casque, c'est ce que l'utilisateur B voit et réciproquement, ce qui est d'une certaine manière la définition, la traduction technologique la plus précise de ce que peut être le processus cognitif de l'empathie. Et effectivement, les travaux d'Alain Berthoz, titulaire au Collège de France de la chaire physiologie de la perception et de l'action, montre bien que l'empathie, les circuits neuronaux qui sont impliqués dans l'empathie ont beaucoup à voir avec les circuits neuronaux qui sont impliqués dans le fait que vous allez visualiser le trajet que vous avez emprunté pour arriver jusqu'ici à l'envers. Donc en fait, c'est vraiment un changement, une mutation de point de vue. Donc l'idée, c'est que la réalité virtuelle nous offre un accès à un autre ordre de réalité. Bien évidemment, si par exemple j'ai décidé de changer de peau et de regard avec Laura Siriani, secrétaire générale du Centre de recherche interdisciplinaire qui nous fait l'honneur d'être là, moi je la verrais, je me verrais moi en train de discourir et en train de faire un discours magistral sur l'interactivité et je verrais Laura Siriani, etc. Donc l'idée c'est vraiment que ça c'est quelque chose qui n'est pas possible d'un point de vue physiologique, ces nouvelles technologies disruptives rendent possible cette ouverture des sens et si possible une ouverture du cœur. Troisième exemple, qui là est un peu le pendant utopique du discours relativement dystopique proposé par Jean Daniel sur en l'occurrence à l'intersection entre les nouvelles technologies et la médecine, avec la médecine connectée aussi au big data. En l'occurrence, Stephen Friend, qui est un proche collaborateur aussi du CRI, qui a fondé une association non-profit à Seattle qui s'appelle Sage Bio Networks, et qui milite beaucoup pour l'open science, la science ouverte, la science justement qui est nourrie par des des données collaborativement fournies par par des utilisateurs, par des patients, par des personnes saines, etc. Et donc il a été à l'origine du projet Résilience. Et en l'occurrence, ce qui se passe dans ce projet, c'est qu'il demande, il se met en quête de ce qu'il appelle des héros génétiques improbables et inconnus, à savoir des gens qui sont porteurs dans leur patrimoine génétique de prédisposition à contracter un certain type de maladie, mais qui finalement restent des sujets sains. Et donc, il demande effectivement aux gens de venir nourrir cette grande base de données établie de façon collaborative pour pouvoir croiser ces données, pour essayer de comprendre pourquoi ces personnes qui pourtant sont prédisposées à contracter une maladie héréditaire échappent au déterminisme de leur gène, et de savoir effectivement de voir un peu à l'image de ce que fait la psychologie positive, voir ce qui va bien pour essayer de le répliquer à une autre échelle. Donc, ce qui me semble vraiment important, en fait, bien évidemment, on ne va pas avancer exemple contre exemple, données contre données, ça ne serait pas porteur. Ce qui me semble vraiment intéressant, c'est effectivement de prendre conscience du fait qu'on est à un moment de rupture, avec bien évidemment un accès à un autre ordre de réalité, comme l'a montré le Beyonder Lab ou l'utilisation de la réalité virtuelle, etc., à une autre façon de considérer la médecine, de considérer aussi les données des patients. Et donc, c'est ce que Luciano Floridi, qui est un professeur de philosophie à Oxford, a appelé entre autres la quatrième révolution. Il nous explique que nous sommes dans une période, si on se rappelle effectivement dans l'ordre chronologique des les révolutions successives qui ont précédé cette période qui est la nôtre. Première révolution, c'est celle de Copernic. L'homme est bousculé parce que du centre de la Terre qu'il croyait habiter, il se retrouve à la périphérie, à la banlieue de l'univers. Ensuite, deuxième révolution, c'est Darwin. L'homme, du centre justement du règne animal qu'il pensait occuper, il se retrouve maillon, peut-être pas final, mais en tout cas maillon fortement relié au règne animal. Troisième révolution, Freud. L'homme qui pensait pouvoir se réfugier dans sa maison, son logement, finalement se rend compte qu'il est il n'est pas seul chez lui, d'une certaine manière. Le moi est tripartite. La quatrième révolution, l'homme qui n'a plus de demeure, que ce soit dans l'univers, plus de demeure fixe dans l'univers, dans le règne animal, et même chez lui finalement, cette révolution numérique modifie d'un point de vue ontologique notre perception de la réalité, et c'est pour ça que Luciano Floridi a forgé un néologisme, il a forgé un nouveau concept qu'il appelle on life. Il explique qu'on n'est plus alive, on n'est plus online, mais on est on life, c'est-à-dire que le réel, le virtuel s'entremêlent de façon permanente. L'avatar, la personnalité de l'individu s'entremêle également. Et donc, il a lancé, avec d'autres chercheurs, dont Jean-Gabriel Ganassia, qui travaille au LIPSIS, un manifeste, The On Life Manifesto, où il explique qu'une telle révolution, donc la quatrième selon lui, une telle révolution nécessite une refonte des concepts, ce qu'il appelle concept re-engineering, parce que, pour lui, on n'a peur que ce dont on ne maîtrise pas vraiment les contours, on ne peut craindre que ce qu'on comprend pas vraiment. Et donc, ce n'est pas que les nouvelles technologies sont vraiment néfastes, c'est peut-être que les concepts avec lesquels nous les saisissons sont obsolètes. Et donc, il appelle à cette refonte des concepts, dont le premier est peut-être ce néologisme qu'il a forgé, on life. Et pour finir, après cette remise en perspective philosophique, une dernière remise en perspective, cette fois-ci historique, avec un livre écrit par un historien israélien qui nous a fait le plaisir de venir au CRI en septembre dernier. Et d'ailleurs, à cette occasion, Margot Calon, ici présente aussi, a écrit un bel article publié sur le blog scientifique de Spin, sur le site du CRI, que je vous invite à consulter, parce que Yuval Noah Harari a fait une conférence pour les étudiants et les professeurs et le staff du CRI sur la montée de ce qu'il appelle les data religions, donc les data religion, Et donc, mais là, en l'occurrence, je voudrais vous parler de son, d'un livre qui a énormément de succès. Il s'appelle Sapiens. Et en fait, donc là, j'ai juste pris cette... Ça, c'est la couverture slovène, mais c'est pas du tout pour qu'on lise en slovène. C'est parce que je trouvais que la couverture était très bien, avec ce hack de Michel-Ange. Je trouvais que la couverture était très, très parlante. Donc en fait, le sous-titre, c'est voilà, une brève histoire de l'humanité. Et donc comme Yuval Noah Hariri est un historien qui n'a pas froid aux yeux, il brasse, il ne se place pas à l'échelle de quelques années, il ne se place même pas à l'échelle de quelques siècles. Lui, il se place à l'échelle carrément de la naissance de l'humanité. Il explique justement, il remet en perspective tout ce dont on est en train de parler, de savoir ce que c'est que l'humanité, ce que c'est que la déshumanisation, ce que c'est que la post-humanité. Il le remet en perspective avec les tout débuts de l'humanité, où il nous rappelle une évidence, mais que nous avons tendance à oublier, à savoir que nous sommes des spécimens de l'Homo sapiens, mais sapiens, ce n'est qu'une variante d'un genus, d'un genre qui est beaucoup plus large. Et il nous rappelle justement que 45 000 ans avant Jésus-Christ, il y avait plusieurs variantes de ce même genus, Homo sapiens, l'homme de Néandertal, il y avait aussi l'homme erectus, et qu'à un moment donné, l'homme Homo sapiens et l'homme de Néandertal ont bien coexisté. Alors, selon les dates d'extinction de l'homme de Néandertal, la coexistence, la cohabitation a été plus ou moins longue, mais à minimum, c'est 5000 ans. Donc, ce qui nous, là aussi, c'est une autre claque, c'est une cinquième révolution, si je puis dire, qui nous invite à méditer, à savoir que précisément, on ne peut... toutes les évolutions des nouvelles technologies nous tendent à nous faire croire qu'il y a une forme de déshumanisation, une perte d'humanité, mais peut-être que c'est précisément juste parce que nous avons une définition bien précise de ce que c'est que l'humanité, et en fait qui est réduite à l'Homo sapiens des 200 dernières années. Mais si on se place à l'échelle de milliers d'années, de dizaines de milliers d'années, peut-être que c'est effectivement différent, et peut-être que le fait que l'homme va de plus en plus voir ses frontières se brouiller avec celles de la machine, et peut-être que c'est l'avènement d'une autre forme d'humanité auquel nous allons assister. Et en tout cas, ce que Luciano Floridi nous invite à faire, c'est à forger de nouveaux concepts pour voir ces nouvelles formes et ces nouvelles déclinaisons d'humanité. Et c'est aussi, bien évidemment, pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui. Donc voilà pour la courte remise en perspective, à la fois philosophique et historique. Et c'est aussi pour ça que j'ai demandé à deux personnes qui sont très créatives de venir nous rejoindre l'équipe du séminaire. Je vais peut-être commencer avec toi, Charles. En fait, dans le parti pris intergénérationnel et créatif, je pense que le Labo des Histoires a énormément de choses à apporter. Et donc, je vais te laisser la parole pour que tu puisses expliquer un petit peu.